Mémoire d'un continent.
Ilikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Comment enseigner l'histoire en République démocratique du Congo? Voilà bien l'exemple de grande question qui, à première vue, est une question banale, même si en réalité, elle ne l'est pas. On sait que, à l'échelle de notre continent, les choses ont changé dans la forme, mais veulent changer aussi dans le fond. L'organisation de l'unité africaine est devenue l'Union africaine. Dans les mots, c'est un pas considérable vers l'avant. Et en même temps, les chefs d'État, les chefs de gouvernement africains se sont réunis à plusieurs reprises, et lors d'une des réunions les plus importantes à Khartoum, au Soudan, en 2006, ils ont décidé d'adopter la charte de la renaissance africaine. Beau projet que celui de la renaissance africaine. Et le projet est d'autant plus beau que c'est une décision des chefs d'État et de gouvernement. Alors que dans d'autres cas, notamment dans celui de l'Europe, la renaissance est venue plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, les intellectuels, les prêtres, les écrivains, les historiens aussi. Et du coup, cette charte dit également une chose importante, c'est que il n'y a pas de renaissance africaine sans la connaissance par les Africains de l'histoire de l'Afrique. Et du coup, d'ailleurs, les différents pays africains, mais aussi à l'échelle continentale, l'Union africaine a demandé à l'UNESCO de l'aider à définir une nouvelle pédagogie de l'histoire du continent, aussi bien dans les aspects techniques que dans ce qui touche au fond. Nous sommes aujourd'hui à Mémoire d'un continent avec un historien d'un genre un peu singulier, parce que il n'est pas seulement historien de métier, c'est-à-dire il n'écrit pas seulement des travaux spécialisés d'histoire. Il est aussi un pédagogue de l'histoire. La connaissance du passé par les savants n'est pas toujours accouplée avec l'enseignement de l'histoire et la passation de cette connaissance à des gens pour que non seulement ils connaissent l'histoire, mais pour que certains d'entre eux deviennent des historiens à leur tour. Pierre Kabuika est professeur des universités à l'université pédagogique de Kinshasa, l'une des trois ou quatre grandes institutions universitaires de ce pays. Avec lui, nous avons déjà parlé de la manière mauvaise, a-t-il dit, en tout cas inadaptée, d'après laquelle l'histoire est enseignée aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui comment l'histoire est enseignée. D'abord, professeur, vous-même, comment, j'allais dire pourquoi, c'est peut-être pas pourquoi, mais comment êtes-vous devenu historien?
Ah, c'est un ensemble de plusieurs facteurs. J'aimais l'histoire. J'aimais être enseignant. Et lorsque j'ai évolué, je suis devenu journaliste. À la radio, télévision nationale, un jour, par un hasard, je rencontrais Cheikh Kanta Diop, il m'a fasciné. Et vous-même, vous avez été mon modèle pendant plusieurs années, à vous suivre, à lire ce que vous faisiez. J'ai dû abandonner les études que je faisais. Au départ, je me destinais à être psychologue. J'ai dû laisser, je suis allé dans le journalisme. Et puis, je me suis déterminé à faire l'histoire comme profession. Pas seulement par imitation, mais par passion. Et puis, il y avait des modèles, comme je l'ai dit.
Et alors, quelqu'un comme Cheikh Kanta Diop, dont on sait que lui aussi, l'un de ses premiers textes porte sur la renaissance africaine. Il avait une vision pas seulement savante, elle est savante, mais aussi une vision très concrète de l'unité africaine, du développement de l'Afrique et de la puissance de l'Afrique sur la scène internationale.
Cela s'est traduit à travers ses écrits, non seulement dans Nation Nègre et Culture, mais il y a les livres sur l'État fédéral africain qui posent déjà les jalons de ce que nous avons appelé Renaissance africaine. Il montre le rôle et la place, par exemple, du Zaïre, comme il l'appelait aujourd'hui République démocratique du Congo, dans le développement de l'Afrique, grâce à la puissance de Yinga, grâce à ses potentialités du sous-sol et du sol, et puis à la vivacité de sa population.
Inga, qui est aujourd'hui dans une autre phase de son développement et qui est appelé, qui est déjà l'un des plus grands barrages du monde et qui est appelé à devenir donc peut-être le plus grand barrage du monde pour produire de l'énergie propre, hein, de l'électricité propre. Alors, vous enseignez l'histoire, mais vous enseignez surtout la didactique de l'histoire. On a vu dans une précédente émission que, d'après vous, c'est pas très bien fait et nous le constatons tous quand on voit le niveau des élèves du primaire qui finissent, de ceux du secondaire. Alors, quelles sont les méthodes nouvelles qu'on doit mettre sur pied pour enseigner plus convenablement l'histoire ?
La première chose à faire, c'est qu'il faut qu'il y ait un programme national bien défini. Le programme, comme les Anglais l'appellent aujourd'hui curriculum, donne des indications, il donne des éléments qui doivent faire partie de savoir à développer par les enseignants, les enseignants pour les apprenants. Donc, il faut un programme. À côté du programme, il faut qu'il y ait des enseignants formés. À côté des enseignants formés, il faut qu'il y ait des outils pédagogiques. Mais au-delà de cela, il faut des paradigmes didactique, des paradigmes pédagogiques. L'histoire doit être aujourd'hui enseignée selon les méthodes actives. Et chaque leçon doit faire l'objet d'une réflexion et de la production des modules pédagogiques bien conçus. D'où la nécessité de la formation des maîtres. Les maîtres à l'école primaire, le professeur au niveau secondaire et au niveau de l'université. Donc, pour faire la transposition didactique, c'est-à-dire la transformation des savoirs savants en savoir enseigné en histoire, le maître doit faire un grand travail. Et ce travail, on ne le perçoit pas, il est souvent négligé. Il faut qu'il y ait des objectifs pédagogiques bien déterminés. Ces objectifs formulés constituent un contrat didactique tacite qui est passé entre l'enseignant et les élèves. Il est à ces niveaux question de dire aux élèves ce qu'ils vont apprendre, comment ils vont l'apprendre et comment ils vont être évalués. Ce stade fini, le maître doit concevoir des situations problèmes. Aujourd'hui, l'histoire ne s'enseigne plus comme des dates, comme la reproduction. L'élève est mise au centre de l'activité pédagogique pour qu'il puisse construire ses connaissances et ses savoirs en histoire. Pour cela, le maître conçoit des situations complexes, des situations problèmes. Au terme de la résolution des situations, l'élève sera en mesure de comprendre par lui-même, avec l'aide du facilitateur qui est le coach, l'enseignant, qu'est-ce que l'histoire, par exemple, de la décolonisation du Congo, la marche vers l'indépendance, l'événement du 4 janvier 1959. Il faut aussi que l'enseignant puisse prévoir les illustrations. C'est ça le rôle du matériel didactique. Il faut également que l'enseignant puisse avoir un contenu à donner aux élèves. Après avoir étudié, suivi, analysé, discuté, résolu les problèmes, qu'est-ce qu'il peut retenir ? La mémoire vient toujours. La mémoire joue un grand rôle dans la fixation de nos savoirs, dans la construction de nos connaissances en histoire. Il faut que le maître exerce les élèves en mettant à leur disposition un guide d'apprentissage où il y a des directives méthodologiques didactiques et puis des questions d'évaluation, sans oublier le lexique qui reprend les mots difficiles, le vocabulaire, c'est-à-dire les jargons du métier d'historien.
Aujourd'hui, l'Afrique tout entière, de l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud et de Madagascar jusqu'aux îles du Cap-Vert, est, comment dire, à la fois passionné par la politique, secoué par les sursauts politiques, et on a l'impression que la politique, c'est des crises en permanence. Or, l'histoire politique de l'Afrique, dans la longue durée, c'est l'histoire des États qui ont duré parfois des siècles. Alors, par rapport à ces citoyens d'aujourd'hui qui voient des chefs d'État renversés par des coups d'État, tous les problèmes de gestion des États, une leçon sur les anciens royaumes ou empires devrait insister sur quoi, par exemple?
Sur l'organisation de la société. Organisation politique, organisation sociale, organisation économique et les relations des États, parce que c'était des États, ce royaume-là. Les relations de ces États, comment les commerces se faisaient à grande distance, comment les dirigeants de l'époque ont dû gérer des catastrophes, comment ils ont dû gérer des conflits, comment ils ont trouvé des solutions à des calamités, tant sur le plan politique, économique, social et culturel.
Et l'histoire de... Alors, certains tiennent à dire la décolonisation, d'autres, nous avons écouté dans une précédente émotion, le Premier ministre Patrice Lumumba parler d'indépendance. Comment l'histoire de ce moment-là, très important, les années 50 et 60, comment, par exemple, on devrait l'enseigner par rapport à nos sociétés, où les jeunes sont de très très loin les plus nombreux, et ils ne s'imaginent pas même ce qu'était la colonisation et ce qu'a été le passage à l'indépendance. Sur quoi serait-il le plus intéressant d'insister, les hommes, les moments, les discours, les combats, etc.
Il faut d'abord insister, montrer aux jeunes quelles étaient les causes de la colonisation. Pourquoi il y a eu résistance? Comment cette résistance a été organisée, effectuée? Il faut montrer les acteurs. Il faut montrer les processus parce que il est décevant aujourd'hui d'entendre même des intellectuels de très haut niveau regretter la colonisation parce que pendant la colonisation, on nous donnait du lait lorsqu'on allait à l'école. Il faut montrer que la colonisation a été un processus de destruction. Destruction mentale, destruction culturelle, destruction économique, politique. Processus de désacralisation. Alors, en ce moment-là, le rôle des acteurs va être mis en valeur. On va montrer non seulement le rôle de quelques acteurs, mais de l'ensemble de la population, de toute la société, pour recouvrer l'indépendance, pour recouvrer l'autonomie.
Aujourd'hui, dans presque tous les pays, on parle beaucoup de citoyens, citoyenneté, etc. On imagine que les pays africains sont confrontés aussi à la question, même à l'évidence, selon laquelle il n'y a pas de citoyenneté sans connaissance du passé, pas la connaissance purement dans les livres, mais sans la maîtrise de la connaissance du passé et sans la capacité de chacun d'émettre une opinion sur ce passé et que toute la société ait des points d'ancrage de mémoire qui soient des points communs. Donc ça aussi, c'est l'un des objectifs auxquels l'enseignement de l'histoire doit aboutir.
L'enseignement de l'histoire africaine, de l'histoire congolaise, doit mettre en exergue cette question capitale des droits de l'homme. Les droits humains ont été violés dans nos pays. Mais il faudra expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'on entend par droits humains. Comment ça s'est passé ici pendant la période coloniale? Et quel est l'état des lieux après la période coloniale? Et pour promouvoir les droits humains, il faut absolument apprendre l'histoire. Parce que l'histoire va contribuer au nationalisme, comme nous ne cessons de le dire, comme vous ne cessez de le dire partout. L'histoire va contribuer à la construction de la conscience nationale, au sens de la vérité, et à promouvoir justement les droits humains qui ont été violés pendant la colonisation, qui ont été violés après la colonisation et qui continuent à être violés. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on entend par droits humains et quels sont les instruments internationaux, les instruments juridiques nationaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir nos pays de cette situation catastrophique.
Alors, il y a dans le monde des pays dans lesquels l'enseignement de l'histoire est accompagné par d'autres mécanismes de diffusion de ce qui s'est passé dans le passé. Longtemps, par exemple, on disait que en Chine, en République populaire de Chine, le président Mao Tse-tung avait l'habitude de raconter l'histoire comment Yukong déplaça les montagnes. On sait que aux États-Unis, le western, entre autres, et tout le cinéma hollywoodien a contribué à apprendre l'histoire et parfois des mythes relatives au passé. Et on sait que aujourd'hui, dans les pays latino-américains, le cinéma, la musique, le roman joue un rôle important. Comment est-ce que les enseignants ou l'enseignant que vous êtes conçoit le rapport avec ces autres personnes, ces autres techniques qui parlent du passé, souvent quand même en essayant de s'appuyer sur le travail des historiens qu'ils révisent à leur manière pour en faire des récits dramatiques ou chantés?
L'histoire ne doit pas rester un petit récit dans les quatre murs. L'histoire doit sortir de la classe. L'histoire enseignée doit aller plus loin. L'histoire doit être vulgarisée à travers les bandes dessinées, à travers les dessins animés, à travers la chanson, à travers le cinéma. D'où la nécessité d'organiser des campagnes de vulgarisation de notre histoire. L'histoire doit sortir de la classe, mais l'histoire doit se retrouver aussi dans les manuels électroniques. L'histoire doit se retrouver sur la toile. L'histoire est une affaire trop sérieuse qui doit rester emprisonnée, qu'elle doit rester vue à travers le prisme de l'enseignant. D'où la nécessité d'investir suffisamment de moyens. Et ici, je lance un appel à la Société des historiens congolais qui doivent sortir de leur carcan pour aller au-delà, ne pas rester seulement dans les salons des savants. L'histoire doit être vulgarisée à la portée de l'enseignant, à la portée de l'élève de l'école primaire, à la portée de policiers, à la portée des magistrats, à la portée de la société civile, à la portée de toute la société. L'histoire doit sortir des représentations erronées. Elikia, vous le savez vous-même, les écoles qui forment les étudiants dans les filières d'histoire constatent que les effectifs en histoire baissent dans notre pays. L'université de Kinshasa, l'université pédagogique nationale, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani et les instituts de formation des enseignants d'histoire constatent que les effectifs baissent. Et si nous ne faisons pas attention, d'ici quelques années, nous allons manquer des historiens. On va importer les historiens des métiers et les professeurs d'histoire, ce qui va être une catastrophe pour notre pays. L'histoire doit être considérée comme la maîtresse de la vie.
Merci pour ce plaidoyer qui rejoint donc évidemment l'ambition de l'émission que Radio France Internationale consacre à l'histoire africaine déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Mémoire d'un continent, émission de RFI, émission réalisée par Olivier Raoul. Merci à vous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.